Et il y a Benoît, donc, qui est venu. Puis moi, Benoît, je rends grâce à Dieu. Je sais que tu l'as fait de bon cœur. Ce que tu as fait cette journée-là, tu es venu faire des sandwichs avec moi pour les jeunes. Et après, leur envoyer une de ces douches d'amour dans le témoignage de comment Jésus a transformé ton cœur. Je vois encore des larmes partir dans les yeux des jeunes. Et plusieurs parmi eux servent à Montréal, dans les environs. Quand ils parlent, ils voient Benoît puis Christina, les gens se rappellent de l'amour. Je sais pas quand vous avez, je sais même pas comment Samuel a réagi quand vous avez passé en frontière, mais je peux m'imaginer. Benoît et Christina, puis vous sautez d'un bras, je ne me trompe pas, vous embrassez, vous remerciez, vous saluez. Parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde saura qu'on est chrétien. Et on n'est pas parfait. Les autorités que Dieu met en place et que vous votez sont pas parfaits. Ils font tout leur possible. Enfin, il y a tellement de choses que je voudrais dire. Je vais y aller, je vais aller prendre une par une parce que ça se précipitait dans ce bel esprit ce matin de louange et de la Sainte-Seine. Une pensée qui me venait ce matin, c'était la joie que j'avais d'être avec celle que je tiens par mon bras droit ici ce matin. Peut-être que c'est pas commun que vous voyez un homme et une femme qui sont ensemble, mais pour vous donner un petit témoignage, moi je suis né dans une église de Pentecôte, dans le Seigneur. J'ai été présenté pasteur à Grenoble dans les... En quelle année?
80, à 98.
98. J'ai été présenté pasteur à Grenoble. Et à ce moment-là, les femmes portaient le voile. Et on avait une réunion de prière dans ce grand rassemblement. Il y avait 400 frères des pasteurs. Et René a élevé une prière d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Et c'était rare que les femmes pouvaient parler. À part d'avoir le voile sur la tête puis d'être vraiment inclinées au sol, elles ne pouvaient pas parler. Et là, il y a deux frères qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, mon frère, il faut te le dire tout de suite, ta femme va être une entrave dans ton ministère et dans ta vie. Alors ça, j'ai dit, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu sais, quand le diable essaie de t'en planter une dans le cœur, là, il travaille fort. Alors, je l'ai refusé en partie, mais quelque part, je l'ai jamais oublié, celle-là. Un jour, ça fait quoi? Ça fait pas longtemps. Deux, trois. Hein?
4 ans, peut-être.
Oui, 4 ans. Je suis dans une assemblée. Il y a à peu près 1000 personnes. Et tout le monde a l'air à tellement passer un bon temps spirituel. Moi, j'ose dire, Seigneur, moi, je sens rien aujourd'hui. C'est quoi qui se passe? Et dans mon cœur, ça me dit, tu crois encore? Que ta femme, c'est un obstacle pour toi, ton ministère. Je reçois ça dans mon cœur. Plein de conférences, pas rapport avec ça. Je me tourne vers ma femme et je dis, René, je te demande pardon. Parce que j'ai encore des relents dans mon cœur de croire que tu me nuis dans l'appel que Dieu a dans ma vie. Puis j'y demande ça avec mon cœur, pas avec ma tête. Il y a des larmes qui sortent et après ça, la présence du Seigneur dans mon cœur, je suis devenu comme un petit oiseau. Puis j'ai repris mon envol. Depuis, on a parcouru beaucoup de chemin ensemble. Le Seigneur, après nous avoir réunis à nouveau à travers cœur à cœur, dont vous êtes les autres de M. Regier, qui est venu ici avec un ministère extraordinaire, d'un homme, comme on se rappelait hier ensemble, un homme qui a fait une prière à Dieu. C'est fou ce que Dieu... Tu me permets, chérie?
Mais oui.
C'est fou ce que Dieu peut faire avec une prière. Hier, là, la tête me faisait ça comme ça. John Regier, dépressif, 27 ans pasteur avec une espèce de faux sourire d'en face, qui prêche, mais qui voit sa femme malheureuse, qui achète à Saint-Valentin des fleurs, du chocolat, de la mène au resto, fait plein de choses, mais dont la femme n'est pas heureuse et dont lui ne sort pas de sa dépression. Et un jour, se tourne vers Dieu et dit, « Seigneur, c'est quoi qui se passe? Mon couple n'est pas heureux. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme heureuse? » Écoutez, quand on ose poser une question de tout notre cœur à Dieu puis qu'on est attentif à sa réponse, on est X années plus tard, et si on est ici, c'est à cause, quelque part, c'est à cause de l'impact du ministère de René Dussouvent, de ce petit homme, mais qui, dans mon cœur, est un bel homme, vraiment un bel homme de Dieu, qui est dépassé par l'ampleur du dépôt de Christ dans son cœur. C'est pas un grand communicateur, mais c'est pas un grand écrivain non plus, mais on saute sur qu'est-ce qu'il nous a donné, parce qu'il a réussi à faire une synthèse de difficultés au travers lesquelles on passe, et pour nous aider à sortir de thématiques qu'on va parler ce matin, dont l'orgueil et l'égoïsme. Deux grandes bébites, pour prendre le mot de Joël, deux grands dinosaures dans notre cœur qui nous empêchent de combler ce vide, ce fossé qu'il y a entre Jésus et nous. Voilà, c'était mon introduction. J'aimerais bien laisser René vous dire un petit bonjour.
Ben bonjour. Oui, il fonctionne bien, bien. Alors, bonjour à tout le monde. Ben, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Ce qui est beau, c'est que même si on est venu en 2012, c'est de voir comment Jésus nous transforme. Hein. C'est bon de nous s'évaluer, se regarder devant Jésus et de voir, wow, en 2012, on a vécu telle chose, mais là, on est en 2017 et le Seigneur nous amène et nous transforme. Vous savez, c'est ça la beauté de la vie, c'est quand ça part de l'intérieur, le changement se ressent et il est palpable de l'extérieur. Alors, c'est vraiment une joie d'être là. Moi, je remercie aussi Martine et Sylvain qui nous ont très, très bien accueillis. On était aux petits oignons. Ils ont manqué de rien. Et c'est vraiment une joie d'avoir dit oui à ce projet qu'il y avait dans leur cœur. Et Christina et Benoît, je veux juste vous dire des fois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a auprès des gens. Vous savez, la famille de Christ, c'est précieux, mais c'est quelque chose, hein, parce que si je vous faisais lever les mains, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants. Et comment Dieu fait, vous savez, nos enfants ne nous appartiennent pas et on souhaite tous que nos enfants soient heureux. Et on contribue les uns les autres dans la vie des enfants. Et Benoît et Christina ont contribué dans la vie de nos enfants d'une façon très particulière. Des fois, c'est une fois, mais c'est une touche qui demeure. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on contribue. La famille de Dieu, c'est grand, les pierres, c'est grand et c'est précieux. Des fois, c'est pas toujours nous qui va avoir l'impact particulier dans nos enfants, nos propres enfants, même si parfois on aimerait ça, mais de savoir que Dieu a des pierres et qu'il se sert dans la vie des uns des autres, c'est précieux. Merci Benoît et Christina. C'est précieux pour nous.
On en a quatre de mariés. On en a marié trois en 10 mois, puis on a dit à la quatrième, donne-nous un break. Alors, elle s'est mariée l'été suivant, donc 4 en 20 mois. Alors, pendant 2 ans, on a pensé juste au changement de robe, au changement de linge, comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se soutenir. Fait que 2 ans, bien occupés. Les 4 ont fait un beau prémarital dans le Seigneur, vraiment se préparer. Ils ont des conjoints qu'on adore, qu'on aime. Seigneur, tu me le permets. On les aime. Des brus, des jambes en or. Alors, on a du fun. On s'en va les rejoindre tantôt. Une petite fête familiale ce soir. Ponctuée aux 2 mois. Nos enfants ont collaboré à notre guérison. On leur a appris à être vrais, mais ils nous l'ont retourné. Hein? Ils ont dit, si vous autres, vous êtes vrais, nous autres aussi, on peut être vrais. Et ils nous ont souvent retourné en vieillissant, en entrant dans la vie adulte, des feedbacks qui nous ont jetés à terre, qui nous ont édifiés, qui nous ont confrontés, qui nous ont exhortés. Et dans cet échange de transparence et de pardon, waouh, c'est de la dynamite. Moi, je trouve la vie chrétienne très belle. Encore plus depuis que j'ouvre mon cœur, puis depuis que je marche plus dans l'humilité, parce que vous savez, l'orgueil peut nous garder isolés toute notre vie. Mais quand j'ai commencé à dire comme homme, et là, messieurs, vous savez de quoi je parle, aller chercher de l'aide, ouvrir mon cœur, parler de nos affaires, de toute façon, ça va changer quoi? Écoutez, vous entendez ce qui parle en dedans de moi, hein? C'est le dinosaure de l'orgueil qui m'empêche de dire, Jésus, j'ai besoin, Jésus, je souffre, Jésus, j'ai mal. Comme j'étais vraiment en communion d'esprit avec Michel ce matin sur qu'est-ce que le dépôt de Jésus qui lit dans nos cœurs. Jésus la voit tellement, notre détresse. Il voit tellement notre souffrance. Mais oui, il dit que la paix soit avec vous. Et si c'était tout suffisant, oui, Jésus est tout suffisant. Les disciples ont reçu la paix. Mais quelque part, je crois que le Seigneur attend, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme aussi. Et nous, on est appelés dans l'humilité à ouvrir nos cœurs au Seigneur. Lui dire ce qu'il sait déjà qu'on va lui dire. Mais ça lui plaît quelque part qu'on marche en humilité. Et on va en lire quelques versets dans quelques instants.
On aurait aimé ça vous dire qu'on est parfait, qu'on est un beau couple, c'est pour ça que ça va bien, que nos enfants ont tous pris des beaux choix. Benoît a vendu la mèche, on chicane, Jésus est là, on a besoin d'aide. Mais c'est pour vous dire que plus on est petit, transparent et humble, plus on touche autour de nous quand Jésus est là. Et ça, c'est important, parce que même nos propres enfants n'ont pas besoin d'avoir des parents qui cachent, qui sont beaux. Juste une petite parenthèse avant que Gilles commence. Il y a eu des périodes de notre vie qui ont duré sur 2 ans, 3 ans où c'était très difficile et nos enfants nous disaient même, papa, maman, séparez-vous, vous avez pas de bon sens. Et on disait non, priez pour nous. Mais on acceptait que ce soit difficile. Et je vais vous dire, une des belles voies à suivre, c'est d'accepter que c'est difficile, mais que Jésus est là. D'accepter qu'on a besoin, d'accepter qu'on n'est pas beau, d'accepter qu'on est pécheur. Hein, on dit que quand on est un vrai pécheur, on a un vrai Dieu. Alors, on n'est pas ici pour vous montrer qu'on est beau, qu'on est bon, puis qu'on a réussi, mais plutôt vous donner soif de dire, peu importe ce que je vis, Jésus est là.
Amen. Pas se séparer, c'est pas suffisant. S'unir dans le Seigneur, ça, c'est tout un challenge en couple, n'est-ce pas, messieurs, mesdames? D'être unis de cœur en Jésus. Oui, dans la vérité, quand ça frotte, mais plus Jésus est là, plus le pardon vient vite, plus l'union vient vite. Et un des endroits où Dieu nous donne de le vivre, c'est ensemble comme on le fait là dans le ministère. C'est incroyable, je dis, Seigneur, rends-nous non seulement compatibles, mais qu'on on puisse adresser les audiences chacun selon notre personnalité, comment on est. Et j'ai tellement de joie, de plaisir à le faire avec René. Dieu nous a ouvert une belle porte en France il y a 3 ans. On y va régulièrement 2, 3, 4 fois par année maintenant. Et en novembre, on était dans un grand rassemblement de toutes les églises, de tous les systèmes d'aide dans les milieux chrétiens. Et la thématique, c'était les pasteurs en chute. Qu'est-ce qu'on fait avec les pasteurs en chute? Hey, quelle thématique qui nous touche droit au cœur. On était invités, pas beaucoup droit de parole, mais moi je priais dans mon cœur. Et dans la dernière heure des 2 jours de convention, un frère a pris le micro et il a dit, « Moi j'ai une question, je voudrais bien savoir ce que les Québécois en pensent. » Et il m'a passé le micro comme ça. Je vous dis, j'étais sur le bord d'exploser sur ma chaise. J'ai dit, « Seigneur, si toi tu lis mon cœur. » J'étais assis comme dans le milieu, comme ça, fait que je me suis juste tourné, je voyais ceux d'en avant, ceux d'en arrière. Mais j'avais tellement observé de choses. Par exemple, René, il y a des hommes, des femmes qui parlaient, René s'est levé, a donné un témoignage de quelque chose qui était super édifiant, qui était en rapport. Là, je voyais des couples se regarder comme ça, en voulant dire, c'est qui celle-là, d'où ce qu'elle vient? J'ai dit, Seigneur, il va falloir que je puisse manifester, parler, dire quelque chose. Et dans tout ce week-end, c'était pas week-end, c'était en premier de semaine, ces 2 jours-là, jamais on a parlé de la puissance du couple pour se garder des chutes au niveau des couples pastoraux et des autres couples aussi, de tous les couples. Mais un homme et une femme qui s'ouvrent leur cœur, qui parlent de leur combat, de leurs difficultés, parce que des chutes, ben c'était des hommes dans l'immoralité, dans l'alcool, dans la violence, dans tellement de choses. On a eu des témoignages percutants de guérison. Mais c'est comme si la femme était toujours quelque part mise de côté. Alors, quand je disais aux hommes, prenez-vous des risques d'ouvrir votre cœur à vos épouses et de dire les combats que vous avez. Là, ça suscite des réactions. Il y a eu des rires. Et que surtout quand j'ai dit que les femmes réagissent d'une manière hostile en disant, « Oh, qu'est-ce que tu vis là? C'est pourquoi tu me dis ça que tu as des combats avec des choses de la nature, de la chair, pour rester large ce matin. J'ai pas sondé l'auditoire. Écoutez, il y a eu tellement de réactions parce que finalement, c'est vraiment préventif. Un mari puis une femme qui s'aiment, qui s'ouvrent leur cœur, qui connectent de cœur, qui se partagent tout sans peur et qui sont là pour se croire et pour s'aider, c'est une prévention dans notre monde. Dans notre monde où l'ennemi s'acharne, où le diable met tout en œuvre pour briser ce que Dieu a institué, le couple et la famille. C'est tellement important dans le cœur de Dieu, le couple et la famille, qui ont du fun, qui se découvrent, qui partagent des moments extraordinaires. On vient de milieux, toutes les deux dysfonctionnels. On est de la Mauricie, je suis de Shawinigan, René de Trois-Rivières. Moi, je viens d'une maison où il y a 5 enfants. Les 5 ont divorcé. on connaît le divorce, m'incluant. Avant de connaître Jésus, j'ai eu un premier divorce. Et une qui vivait aussi en homosexualité, qui nous a invités à son mariage homosexuel, il faut le dire un jour, et où on n'a pas participé. Et qui, pendant des années, ça a créé un grand remous. Jusqu'à temps qu'elle s'aperçoive comment je l'aimais, elle. Elle a dit, comment tu peux sentir ton amour et ne pas sentir que tu viens participer à mes choses? Bien là, c'est une belle occasion de parler de la parole de Dieu. Mais tout ça pour dire que quand tu viens d'une famille dysfonctionnelle, tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu pour rebâtir quelque chose de solide. Couper les liens générationnels, couper les liens de sang qui n'ont pas été bons et repartir vraiment avec Jésus. Et pas juste sur des principes de tête, mais vraiment appliquer dans notre vie, appliquer ce que le Seigneur nous dit au quotidien pour que l'Église ne soit pas seulement ici ce matin, mais quand on retourne à la maison avec cette intention-là, d'augmenter des efforts, efforcez-vous d'aimer, efforcez-vous de prendre soin de votre bien-aimé et de votre partenaire. Seigneur, y a-t-il quelque chose qu'on peut améliorer? Sortir du statu quo, sortir de la routine, un peu comme M. Regier a fait, quand il a élevé cette prière-là à Dieu, il savait pas qu'il aurait une traînée là, internationale de qu'est-ce qui était pour lancer. Quand on va à son bureau au Colorado, on est assis avec des gens d'Indonésie, de Jakarta, en train d'observer comment il fait. Et de cela est né l'appel, la vocation dans laquelle le Seigneur nous a introduits il y a 6 ans. René et moi, on sait ce qu'on fait. On fait du cœur à cœur, à temps plein. Moi avec les hommes, elle avec les femmes. Tous les deux avec les couples. Prémaritales, des gens qui ont des difficultés, des gens qui veulent simplement connaître la croissance d'un couple, qui veulent aller plus loin, qui n'ont peut-être pas des grands problèmes, mais qui disent « on veut aller plus loin dans notre couple », des gens qui sont vraiment au bord de divorcer ou des gens qui sont carrément divorcés depuis 2 ans. Entre 6 mois et 2 ans, on a rencontré peut-être 10 de couples dans les 6 dernières années et je crois qu'il y a un 80% de couples qui sont revenus ensemble, dont certains au milieu de vous. Alléluia, merci Seigneur, parce que lorsque le cœur s'ouvre, c'est incroyable ce que Jésus veut faire. C'est tout ce qu'il attend. Que nos cœurs s'ouvrent. Dès qu'on se laisse dilater un petit peu dans la vérité, puis qu'on s'ouvre, qu'on dit « Seigneur, faites quoi? Seigneur, je veux que tu me touches, je veux que tu me parles, je veux plus dans ma vie. » C'est incroyable que ce que Jésus, on dirait qu'il nous attend pour venir combler ce fossé-là, ce manquement-là dans nos cœurs.
Amen.
OK. On va lire les versets.
Je vais te poser une question.
Oui. Philippiens, si tu veux le mettre. 1:27, si on l'a.
Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui ont en bas de 35 ans? OK, il y a quand même... OK. Parce que juste vous dire ce qui est particulier dans ce que Gilles et moi, on est appelés, c'est que c'est de 75 à 80% de cette tranche d'âge-là, entre 20 et 35 ans, qui viennent demander de l'aide. Et ça, c'est une grosse bénédiction que les générations plus jeunes ont soif d'un cœur libre et d'un cœur guéri. OK. Merci.
Écoutez, je vais nous lire un texte de fond. On part toujours dans la direction parce que ça fait 3-4 jours que je lis, puis je dis « Seigneur », mais on veut juste être sensible au Saint-Esprit. Et voici le texte ce matin. On le lit et on va apporter des éléments dessus, mais à travers ça, il y a du témoignage, du partage. Alors, sur cette parole-là, donc, Philippiens 1:27, à partir du verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. On entre au continu, chapitre 2. Si c'est possible. Si donc, ça c'était mon introduction parce qu'il y avait une pensée qui retenait l'attention de mon épouse, mais si donc, ça, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et on sait qu'il y a. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, que vraiment, on a un Dieu qui nous aime passionnément, qui est partie prenante de tout ce qu'on vit, qui s'intéresse à nous et qui veut se battre avec nous dans notre vie pour qu'on entre dans ce qu'il a forgé pour nous, c'est-à-dire un plan de... Merci, ça vient d'où? Le bonheur, il vient de ma sœur en avant. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Le Seigneur a vraiment forgé un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, le Seigneur, il a un plan de bonheur, il veut s'associer à notre cœur. Et pourtant, il a une lecture parfaite de nos cœurs. Je rappelle cette belle pensée de Michel ce matin, de notre anxiété, notre dépression, notre insécurité, nos craintes, nos inquiétudes. Il est là, puis il lit ces choses-là. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on s'approche de lui, vraiment pour lui communiquer qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne suis pas parti pour 3 heures, je veux juste voir si...
Merci, mon amour.
Oui, okay. La mauvaise nouvelle, je vais juste, permettez-moi d'ouvrir. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, bien, on a commencé à en parler un petit peu ce matin, en parlant de notre propre histoire, parce que il faut permettre à Jésus de sonder chacun de nos cœurs pour qu'on voit qu'est-ce qui est en nous. C'est beaucoup plus facile de regarder ce qui est en l'autre. Mais d'une manière objective, de par notre métier, notre travail, notre appel, notre vocation, on est obligé de voir de qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens souvent, avec quoi qu'ils sont aux prises, avec quoi qu'ils luttent. Parce que lorsqu'ils font cet exercice de venir nous rencontrer et d'ouvrir leur cœur, nous, on a fait une prière à Dieu. Envoie-nous des cœurs transparents puis des cœurs qui disent oui. C'est tout ce qu'on a fait. Et c'est ce que Dieu fait depuis 6 ans. Et des gens viennent, ils s'ouvrent, et là, on va voir la nature des combats. On va voir les luttes, on va voir les souffrances. Et c'est un peu comme si on peut prendre, toute dénomination confondue. Ça vient de tous les milieux, ça vient de partout, il vient même des inconvertis, et ils luttent avec les mêmes choses que nous. Hein? L'orgueil, c'est pas un principe chrétien, ça, c'est un principe humain, très, très profond. Même les inconvertis ont les mêmes luttes. Et à ma surprise, un jour, on reçoit un couple, il dit « Ah, je pense pas que ma femme va venir, c'est pas son style. » Mais quand elle s'est assise et qu'elle a commencé à ouvrir ses besoins, elle était plus chrétienne que les chrétiennes. Elle ouvrait son cœur dans vraiment quels sont les besoins qu'une femme s'attend dans un foyer, dans une maison. Le besoin d'amour, le besoin de présence, le besoin d'écoute, c'était extrêmement clair. Comme quoi Dieu a mis des choses dans le cœur de la femme, a mis des choses dans le cœur de l'homme. Et si on va à l'encontre de cela, c'est là que la brouille vient, que le trouble se met en place. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on met... C'est un peu comme prendre la sonde lorsqu'on met le gauge pour voir dans les cœurs qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vivent les gens. Et même hier soir dans notre auditoire, il y a des couples qu'on a rencontrés dans d'autres assemblées et qui venaient nous voir et qui nous faisaient part de douleurs. Alors, de douleurs, on parle de... Moi, je parle de beaucoup, beaucoup d'isolement. Les gens se sentent très seuls. Il y a beaucoup de détresse dans les cœurs, beaucoup de découragement, beaucoup de désespoir. Et là, on parle de l'Église de Christ. Beaucoup de sentiments d'abus, même d'abus spirituels, fondés ou non, parce que parfois, l'isolement et la non-communication faisant son œuvre, chacun reste dans sa tranchée avec sa médisance, sa critique, son jugement. Et il y a des fossés qui s'installent. Souvent, c'est entre l'autorité et le peuple de Dieu, comme si l'autorité ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Parce que devant Dieu, on est tous les mêmes. Mais c'est beaucoup plus facile de regarder aux autorités et les critiquer. Ils sont debout en avant puis ils vous parlent. Et on surveille chacun de leurs travers et de leurs choses. Et c'est une mauvaise lecture, c'est une mauvaise vision. Hein? Hier, on a parlé de vraiment, une œuvre du Saint-Esprit commence par regarder. Moi, je vais aller un peu ce côté-là, tiens. L'apôtre, bonjour, vous allez bien ce matin? Alléluia. C'est ma femme qui m'a appris à tourner.
Parce que mon mari voit juste d'un œil.
C'est pour dire que ça finit par rentrer des messages, messieurs. Il y a comme une poulie toute seule qui se met à tourner. Fait qu'à un moment donné, le message, il passe. Il y a de l'espérance. Alors, donc, je suis en train de dire que il y a un fossé qui semble s'installer parfois entre l'autorité et le corps de Christ, alors que nous sommes tous le corps de Christ. On est tous appelés à avoir développé ce qu'on a dit ce matin, une même pensée, une même âme, un même sentiment. Vraiment tous s'unir de cœur pour bâtir l'Église de Dieu et pas se laisser diviser. Et sans retourner chez soi en disant « Ben, j'ai pas tant aimé ça, ce que j'ai entendu. » Alors que Dieu nous appelle à avoir un rôle actif, à nous regarder nous-mêmes, à nous laisser transformer et à apporter à l'Église ce que Dieu met dans nos cœurs. J'aime bien cette petite histoire d'un homme un jour qui arrive à l'Église, il observe pendant un mois, puis après un mois, il s'avance vers le pasteur, puis il dit « Pasteur, j'ai tout observé, j'ai tout vu ce qui se passe dans ton Église. » Et j'ai un diagnostic. Oui, mon ami, c'est quoi? Il n'y a pas d'amour dans ton église. Il y a un problème, il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Alors, le pasteur a levé les bras en l'air, a dit, « Merci, Seigneur, tu m'envoies quelqu'un avec de l'amour, enfin, qui va apporter vraiment une touche particulière puis qui va laisser une belle traînée dans l'église. » Il est reparti comme le jeune homme riche, parce qu'il avait de grands biens. Laissez-moi vous le dire. Il a repris la porte d'en arrière. Parce que c'était une belle illustration de dire que si tu n'as pas d'amour, bouge pas. Essaie pas de transformer quelque chose, mais si Jésus te transforme, donne qu'est-ce qu'il fait pour toi. J'aime beaucoup la pensée que René amène souvent, que le chemin tracé, on n'a pas à essayer d'être une autre personne que nous-mêmes, de forger une autre identité pour plaire ou teinter de fausses conceptions ou de, c'est pas ça le mot que je cherche, mauvaises motivations. Les motivations de nos cœurs permettent à Dieu de les sonder, d'avoir une recherche de bien paraître, une recherche de pouvoir, une recherche d'avoir ma place dans l'Église, alors que tout cela, c'est déjà acquis en Jésus-Christ. Comme la victoire, Benoît disait hier que la victoire est déjà acquise, on a juste à rentrer dedans. Alors, il y a des choses qui nous sont acquises, mais on va pas chercher ces trésors-là parce qu'on a trop le focus sur qu'est-ce que les autres pensent. Comment qu'ils agissent, qu'est-ce qu'ils font. On n'a pas le focus sur soi. Et je crois que ce texte-là, ce matin, moi, il me rejoignait dans cet aspect-là. Vraiment, dans un élan, ayons de l'humilité, considérant les autres comme au-dessus de nous. Tu sais, pendant que tu les considères au-dessus, là, tu ne te casseras pas la tête pour les juger. Hein? Tu vas beaucoup plus regarder à ton propre cœur qu'est-ce qui se passe. Mais si tu les considères en bas de toi, me dire de quoi, tu vas avoir quelque chose à alimenter ton esprit. Lui, il n'a pas changé encore. Elle, là, je ne suis pas sûr qu'elle marche avec le Seigneur. Et il n'y a pas de fin dans ce piège-là, dans cette trappe-là, dans ce mensonge-là.
Un jour en France, je vais vous apporter un petit témoignage. Un jour en France, on est avec un couple et on termine 4 jours avec eux. Puis c'est 4 jours intensifs, c'est on passe de 4 à 5 heures avec le couple. Et c'est l'histoire de la jeune femme, c'est une fille de pasteur Puis elle nous a exposé ses douleurs, ses difficultés, puis on termine, puis ça se termine. Vous savez, en cœur à cœur, on vit plein de choses, hein. On est quatre pierres vivantes, puis Jésus est là. Fait que parfois c'est triste, parfois c'est douloureux, parfois c'est dur, mais parfois on rit, parfois c'est... On est vraiment quatre petites pierres devant Jésus. Et la dernière rencontre qu'on a avec eux, c'est vraiment... c'est les éclats de rire, c'est bon. Et Gilles est éclaté de rire avec elle, il y a comme quelque chose qui se passe, c'est bon, c'est bon. Puis on la voit ouvrir sa joie de tout son cœur, puis elle dit « Eh, que ça fait du bien! » Elle dit, « Ça n'a pas toujours été ça. Tu sais, mon père était pasteur. » Et là, je la regarde, ben j'ai dit, « C'est bon. » J'ai dit, « Seigneur, il est tellement grand. » J'ai dit, « Là, j'ai dit, t'es devant un pasteur. » Elle dit, « Agile. » Elle dit, « T'es pasteur. » Et là, c'était tellement bon, parce que c'est ça, la difficulté, c'est de pas être capable de se voir tous comme Jésus nous voit. OK? Nous, on n'a pas besoin de dire qu'on est pasteur. Dieu nous met où il veut, puis on a un cœur pastoral, on a un cœur pour prendre soin. Mais cette femme-là était tellement blessée dans sa situation qu'elle avait déjà fermé. OK? La beauté, c'est justement de se voir comme Dieu nous voit. Dieu nous donne des rôles, mais le Seigneur, il veut pas que nous, on se voit différemment que lui nous voit. Vous êtes tous précieux, on est tous précieux. Et c'est comme ça que lui a ses yeux sur nous. Alors, c'était vraiment, pour son cœur à elle, une double guérison de voir que son cœur passait au-dessus de le rôle d'une personne, de ce qu'elle, elle avait dans sa tête. Alors, c'est important de passer au-delà. Quand nos enfants, si vous rencontrez nos enfants vont vous dire les vraies choses de Gilles et René. Moi, je travaillais en relation d'aide dans une très grand groupe pastoral en relation d'aide, et j'avais des énormes difficultés de couple et ça n'allait pas bien. Et les gens me demandaient comment ça allait et je disais ça va mal. Et les gens me leur demandaient 3 mois après et je disais ça va mal. Et plus je disais ça, plus on s'éloignait de moi, je peux vous le dire. Mais nos enfants étaient vivants dans notre maison, étaient obligés, parce que probablement s'ils avaient pu fuir, ils auraient fui dans ces moments difficiles-là. Mais c'est pour vous dire que quand on vit quelque chose, le temps de Dieu n'existe pas. Hein? Moïse a eu des moments difficiles, Josué, Joseph, les moments de Dieu n'existent pas, mais quand ça va mal, puis qu'on n'est pas dans le déni, souvent notre difficulté, c'est que dans le temps, on dit « bon, ben là, ça suffit, là ». Ça fait 2 semaines que je pleure, là, ça suffit. C'est souvent notre difficulté. Le Seigneur, lui, ne calcule pas le temps. Il veut qu'on cherche. Si après 6 mois, j'avais dit, bon, ça suffit, notre couple, là, on le garde comme ça, puis on passe par-dessus, puis on passe à un autre langage, on n'aurait pas trouvé de l'aide. Ça a pris vraiment 2 grosses années en larmes où je partais travailler à tous les matins en larmes dans ma voiture et je disais, Seigneur, je te demande une chose, c'est que tu m'aides à passer ma journée. Le lendemain, je disais la même chose. Si j'avais abandonné, je serais pas devant vous aujourd'hui. C'est ce qui est important avec le Seigneur, c'est de sortir du temps quand ça va mal.
L'orgueil, l'hypocrisie, l'égoïsme, je vais les appeler des dinosaures ce matin, sont des pièges qui s'installent en nous, qui nous forcent à ouvrir la bouche pour que le diable vienne nous gaver, un peu comme des oies, mais avec des mensonges et des peurs. C'est comme ça que Satan travaille, pour nous isoler, mieux nous égorger, nous détruire. Il nous garde dans le mensonge et dans la peur. Quand des couples viennent dans notre bureau, sont tous des beaux jeunes, là, ils sont beaux, sont intelligents, sont doués. Ils veulent faire une différence. Ils connaissent Jésus, ils veulent faire une différence dans le monde. Et on leur dit, est-ce que tu choisirais le couple de tes parents comme modèle? Oh, je suis pas sûr. Je pense que... Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à faire mieux et gloire à Dieu. Hein? L'élève dépasse le maître. Et c'est bien que les enfants prennent un envol. Ils veulent être différents. Mais on s'aperçoit rapidement qu'ils sont pas tellement différents. Là, maintenant, on leur demande leur réalité, sur quoi ils basent leur fondement, leur union. Et comme on disait hier, ben il y en a 8,5. C'est une moyenne, parce que c'est impossible, là, statistiquement, mais il y en a 8,5 sur 10 qui ont déjà des relations intimes avant le mariage. Et là, on est dans le prémarital. On dit de 8 à 9 couples sur 10 ont déjà des relations. Et là, lorsque nous on veut pas les convertir, on veut pas leur imposer une doctrine. On leur permet d'exprimer vraiment leur cœur dans qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Êtes-vous bien là-dedans? Ah, ben moi je suis pas bien, moi te le dire là, c'est parce que j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il me laisse si jamais je donne pas ce qu'il me demande. Ah, des fois il me fait peur, j'aime mieux faire ça, mais dans le fond ce que j'aimerais c'est qu'il rouvre sa bouche puis qu'il me parle puis qu'il m'ouvre son cœur. Bon, ça vient spontanément, fait que le vrai cœur à cœur est parti. Les vrais enjeux sont partis. Et là, ce qu'on leur demande, avez-vous déjà partagé ça à vos parents? Oh! Oh là là! Que ce qu'on vit là, hey! Et là, je pense à deux jeunes sœurs qu'on a fait les deux mariages. Nos parents nous voient purs, blancs et vierges, et c'est comme ça, on a grandi dans l'Église, comme ça. Et ils nous voient comme ça, puis on veut pas changer la perception qu'ils ont. Songe, hypocrisie, orgueil, manque d'humilité. Hey, papi, man, on veut s'asseoir et on aimerait ça vous dire quelque chose. Là. Et on veut vous dire que je veux te dire, papi, man, que je me marie, mais que j'ai eu des relations avec mon futur. Je voulais juste que vous le sachiez. Et ça, c'est la vérité. Alors, c'est sûr que ça va jeter une douche froide. Mais le Seigneur va, à travers la vérité, va ramener la chaleur de la liberté. On pourrait dire ça comme ça. Amen. La chaleur de la liberté de ceux qui sont vrais, qui sont authentiques et qui se disent les vraies choses. Elles m'ont dit, les deux filles, on verra dans le futur le bon moment pour leur partager. OK? Bon, je ne sais pas où ils en sont. Mais c'est l'exemple, c'est un des exemples qui me vient ce matin.
Ce qui est pas facile, c'est d'être vrai et de sortir de nos schèmes de pensée. Okay? Parce qu'on a des schèmes de pensée, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait pas faire. C'est pour ça que souvent quelqu'un qui connaît Dieu va pas bien, il se met une limite puis il dit, ben là, ça fait assez longtemps que ça va pas bien, maintenant ça va bien. Mais en fait, il s'est rien passé. Et c'est un peu la même chose quand on aide aussi beaucoup de parents et les parents, ils disent, ben là, je souhaite de tout mon cœur que ma fille ou que mon fils, il se garde ou il fasse attention. Mais j'ai dit, est-ce que vous en parlez avec lui? Non! Vous savez, on est dans une société de silence. Hein? On parle pas des vraies affaires. Et pourtant, à l'école, si vous allez passer une journée au secondaire avec votre enfant, vous allez voir qu'il se parle des vraies affaires. Mais tout croche. Au cégep, la même affaire. À l'université, la même chose, mais tout croche. Il faut se permettre, nous, d'en parler comme il faut. Il faut se permettre, nous, d'ouvrir les vraies choses. Parce que les jeunes ont soif et parce que nous-mêmes, on a commencé notre vie tout croche, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Il y a plein de choses qu'on ne nous a pas parlé. Vous savez, la douleur de silence, elle est très, très grande. Les gens viennent nous voir et cette douleur-là d'avoir voulu savoir des choses. J'aime bien le verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » La connaissance de ma propre histoire, de ma propre douleur, elle est tellement précieuse pour le Seigneur. Jésus s'intéresse tellement à mon histoire. L'histoire de nos enfants est très précieuse aussi. C'est-à-dire que nos enfants, là, ils nous appartiennent pas, là. Vers 12, 13, 14, c'est là que tranquillement, il y a une séparation vraiment qui se produit, et c'est une saine séparation, mais faut les voir comme étant en train de choisir leur vie. Si je suis en train de choisir ma vie, ben j'ai peut-être besoin d'informations, j'ai peut-être besoin d'être guidée, puis après c'est moi qui vais faire mon choix. C'est important de pas rester dans le silence. Cœur à cœur, c'est sortir du silence aussi. Aborder les vraies affaires, c'est sortir du silence. La sexualité, je vais vous dire, un jour, j'ai présenté un projet, j'ai dit, je veux prendre soin des jeunes. On va faire des 5 à 7, une fois par mois ou une fois par deux semaines. Et on m'a dit, de quoi tu vas parler? Mais j'ai dit, je vais parler de la sexualité. Puis on m'a dit, tu vas parler aussi de quoi? Mais j'ai dit, je vais parler de la sexualité. Puis de quoi aussi? J'ai dit, je vais encore parler de la sexualité. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde en parle d'une façon tellement désordonnée. C'est mondial, le désordre sexuel dans lequel on est aujourd'hui. Alors, vous pensez que Pensez-vous qu'à quel point on a besoin d'en parler d'une façon belle et ordonnée pour protéger, pour donner honneur à Dieu? Hier, on l'a dit, mais on va le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Quand un jeune couple vient de nous voir, hein, on va parler aux jeunes un petit peu matin. Hein. On a un petit penchant pour les jeunes, c'est certain. Vous êtes dans le feu de l'action de votre vie adulte. Quand des jeunes viennent nous voir, là, c'est la première question qu'on leur pose. Avez-vous des relations sexuelles? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui lie. C'est quelque chose qui nous emprisonne. Mais on dit, non, c'est correct. C'est pas vrai, ça. Et le mal, le diable, se plaît à détruire. La sexualité, ça détruit, ça lie quelque chose, ça prend quelque chose. Et le fruit de la sexualité, ça fait quoi? Ça amène la confusion. Les jeunes sont liés, sont prisonniers et sont confus. Est-ce que vous pensez que c'est important d'en parler? Ben oui. Parce que c'est pas juste ça se fait dans le mariage. C'est pas juste ça. C'est pourquoi Dieu met un ordre comme ça, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous protéger. Les jeunes filles, les jeunes couples en prémarital, les jeunes qui éclatent dans notre bureau en disant « Je le sais, je suis pas bien. » Et ça finit là, ils sont juste pas bien puis ils savent pas quoi faire. Cette semaine, je m'en vais parler à un groupe de jeunes femmes et celle qui est en leadership, elle m'a envoyé des questions. Et une des questions, comment je fais quand mon chum insiste tout le temps? Ben, je vais les équiper à dire non. Il faut dire non. C'est sain de dire non. Pas non puis donner un coup de masse. Dire non puis c'est assez. Prendre position. Pourquoi? Pour me protéger, moi, parce que j'ai un papa céleste qui m'aime. Il veut que mon corps lui appartienne. Si vous savez comment c'est un domaine qui est tellement important de souligner, autant avec les jeunes qu'avec les personnes plus vieilles. Je reçois des choses, des fois, des emails. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on n'a plus de relation. Qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi se plaît à nous garder en silence, à nous faire taire pour qu'on se libère pas. Et ça, c'est très, très, très lourd à vivre à l'intérieur. Dieu veut nous libérer. Quand Gilles a lu tantôt d'un même corps, d'un même amour, d'un même esprit, Dieu veut qu'on soit d'un même cœur pour les vraies choses. On peut pas faire à semblant que la sexualité, il n'y a pas de désordre dans le monde, là. Hein? Je me promenais sur l'autoroute et j'ai vu un gros panneau d'un humoriste et son titre, c'était « Sexe, liberté et argent ». J'ai dit « Gilles, yes! Ça va être mon titre, moi aussi, je fais une conférence d'ado bientôt ». J'ai dit, ça va être ça, mon titre. Pas tout à fait dans la même direction. Parce que c'est ça, la vérité. Quand vous retournez chez vous, puis vous retournez dans vos milieux de travail, puis vous allez à l'école, c'est ça que vous vivez. C'est là que Dieu veut que moi, je sois une lumière. La même chose, mais dirigée vers quelqu'un qui me protège et qui va prendre soin de moi. Dirigée vers quelqu'un qui s'intéresse à mon corps. Vous savez, quand on aide les jeunes, puis qu'on les aide à sortir de la sexualité désordonnée, pourquoi? Ben juste pour les rendre libres. Ils ont tellement de plaisir. On reçoit un téléphone. Il est 11h le soir. René puis Gilles, on a réussi, on est parti en courant. Mais c'est sûr que quand tu cours, tes hormones se tassent. C'est ça la vérité. Mais c'est la vérité mondiale, internationale aujourd'hui. On va à Cuba, en France, en Haïti. C'est comme ça partout, là. C'est une sexualité désordonnée. Nous, on fait quoi? On regarde ça, puis... Il y avait une maman, elle me disait, je prie. Je dis, écoute, là, ça suffit pas de prier. Faut que tu parles. Faut que tu parles. Pourquoi? Parce que Jésus parlait. Parce que Jésus nous éduquait. Vous savez, c'est bien plus que de l'enseignement à la sexualité aujourd'hui. C'est de l'éducation. Les gens arrivent, ne connaissent pas Dieu, arrivent dans notre bureau et se laissent éduquer dans la sexualité. Ils sont tellement bien. Ils nous ont jamais parlé de Dieu parce qu'ils disent, on veut pas tellement votre religion, mais nous, on les aime. Venez vous asseoir. Mais vous savez, ils se laissent éduquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits comme nous. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de l'ordre, du respect et de l'amour qui passe. Dieu, là, s'est pas trompé. Il a fait des choses en ordre, puis on peut pas négocier ça. Il s'est pas trompé. Mais il faut apprendre à parler, à ouvrir et à prendre soin. Et ceux qui vont bien parmi vous, ceux-là, on parle ce matin, là, puis que ça va tellement bien, puis vous vivez pas ça, puis ça fait des années que c'est beau, c'est le fun. Il y en a qui vont bien. Hein? On parle pas en disant tout le monde va mal, là. Si vous allez bien, puis ça coule, puis Jésus dans votre maison, puis vous êtes heureux, merci Seigneur. Mais ceux qui vont bien, j'aurais une petite parole pour vous. Faites attention dans vos esprits, dans vos jugements, de ne pas étiqueter ce que vous voyez qui est différent de vous. Ça, c'est important. Je vais vous donner un témoignage avec nos enfants parce qu'on a vécu un moment très difficile avec un de nos enfants. Ça a duré 4 ans. Il se promenait avec le couteau, il faisait des trous dans les murs. C'était très, très difficile pendant 4 ans. Et j'avais 4 autres enfants. Et les 4 autres enfants étaient vraiment fatigués, tannés et écœurés du comportement de cet enfant-là. Et moi, toutes ces années-là, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de répondre par l'amour. » Je voulais pas appeler la police, je voulais pas appeler la DPJ, je voulais que Dieu m'apprenne à aimer, et je voulais même pas avoir peur de mon corps. J'ai fini à l'hôpital avec une côte cassée, et j'étais dans la joie de dire, « Seigneur, maintenant tu fais ton œuvre. » C'est après la côte cassée qu'un mois après, mon enfant s'est converti. J'ai décidé que j'avais pas peur. À la vie, à la mort, je me battrais pour que cet enfant-là reçoive l'amour dans son agression, sa difficulté, sa violence. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé quand il a donné son cœur au Seigneur? Ben là, il a commencé à être gentil. Savez-vous ce qui s'est passé dans notre maison quand celui qui était méchant depuis 4 ans a commencé à être gentil? Ses frères et sœurs ont dit, « Hey, tu vas pas nous écœurer là, toi. Fait 4 ans, tu nous cours avec le couteau, tu m'as jeté de ta chambre, Non. Tu vas pas nous écœurer. Tu commences pas à être gentil avec des vrais mots, là. Je m'excuse, hein. Je parle vraiment comme les ados. » Et, mon fils a dit, « Non. Vraiment, le Seigneur est venu, puis on voyait. Quand Dieu vient, il se passe quelque chose. » Et là, le Seigneur a commencé à me montrer le cœur des propres justes. Vous savez, les propres justes, ils sont bloqués dans la relation d'amour avec Jésus aussi. Et c'est pour ça que j'aimerais parler aussi à ceux qui vont bien. Gardez vos cœurs aussi, de ne pas être un propre juste. Et de dire, est-ce que moi, quand je vois ce qui se passe dans l'autre famille ou là, est-ce que moi, dans mes pensées, j'ai simplement une pensée de louange et d'amour où je me dis, à quelque part, je me réconforte dans mon histoire à moi, que moi, ça va bien puis que moi, je suis comme ça. Faut faire attention. Parce que vous savez, l'histoire du propre juste, dans la Bible, on la voit avec le fils prodigue. Et je vous dis une affaire. C'était pas facile les années où mon garçon était très violent. C'était très difficile. Mais c'était très apparent. Alors, quand il y a quelque chose qui est apparent, ça nous donne des pistes, ça nous donne du jus pour intervenir, ça nous donne des sujets de prière, ça nous donne quelque chose. Le propre juste, parfois, là, ça peut durer très longtemps, hein, parce que c'est intérieur, caché, subtil, orgueilleux, hypocrite. C'est pas facile, ça. Et j'ai vu avec un de mes enfants que 5 ans plus tard, après que l'autre se soit converti, elle est venue me voir et a dit, « Maman, je viens de lui pardonner. » Vous savez, quand on est propre juste, on peut traîner des choses qui nous coupent de l'amour de Dieu, qui nous coupent de la relation avec le Seigneur. Et cet enfant-là qui s'est converti, 3 ans plus tard, son champ d'amour a vraiment ouvert. Il a pu raconter tout ça. Si je vous le raconte, c'est parce que lui-même l'a raconté. Et aujourd'hui, il est pasteur. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. C'est certain. Et aujourd'hui, il prêche aimer. Aimer, c'est l'est que vous voyez aimer, parce que lui, il l'a reçu. OK? Mais gardons nos cœurs. C'est ma pensée ce matin. Parce que des moutons noirs, il y en a dans toutes les familles. Puis pendant qu'on regarde le mouton noir, on se regarde pas. Faites attention. Parce que René est vraiment pas meilleur que quelqu'un qui a un autre comportement tout croche. Jésus a le même amour.
Amen. Merci, chérie. J'aurais une pensée pour qui s'applique au couple et qui s'applique aussi aux parents envers les enfants. Et je veux d'abord dire que y a-t-il quelque consolation en Christ? Oui, il y en a une consolation dans le Seigneur. Quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour? Oui. Parce que lorsqu'on manifeste l'amour, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Dès qu'on prend le chemin de la vérité, dès qu'on prend le chemin, je crois vraiment qu'il y a une belle chronologie. Je suis le chemin, la vérité. Quand on prend le chemin, on va frapper à vérité. Dès qu'on touche à la vérité, je suis la vérité, la vie, on rentre dans la vie. Hein? Et dès qu'on est dans la vie, nul ne vient au Père que par moi. On est en relation avec le Père. Il y a vraiment un beau chemin à emprunter pour connecter avec le Père. Et l'amour fait son chemin. Il est écrit ici que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hier, dans le témoignage, Sylvain a apporté que... Tu me permets, Sylvain? C'est un qui est élevé dans la ouate, puis beaucoup d'affection de mère, sœur et la famille, mais que ça l'a amené quand même à dire, c'est normal qu'on prenne soin de moi dans la vie, qu'on se tourne vers moi, que je sois quelque part le centre. À défaut d'être égoïste, parfois on peut être égocentrique. Et là, je ne parle pas de Sylvain, je parle de beaucoup de personnes qui vivent ça, dont moi. On est le centre et c'est normal que tout tourne autour de nous. C'est la pensée macho au Québec aussi, beaucoup. Il faut que ça tourne autour de nous. Et là, quelque part, le Seigneur, à travers Cœur à cœur, on a vu beaucoup d'hommes arriver à faire cette belle prise de conscience, de dire, en écoutant leurs épouses, leur histoire au complet, vous qui êtes mariés depuis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans, je pense que j'ai touché tout le monde ici, vous qui êtes mariés depuis peu ou tant d'années, tout à coup, lorsqu'ils écoutent les douleurs de leur époux, je pense à un couple de Trois-Rivières ici qui n'est pas ici ce matin, lui dit, ça fait un an qu'elle me casse la tête pour que j'aille faire cœur à cœur. Je suis là aujourd'hui, quand j'ai demandé sa motivation. J'ai dit, on va commencer avec toi, ma sœur. Lui, il regardait le mur, là. Il était assis de même dans la pièce. On avait un petit bureau à l'époque, ça fait 5 ans de ça à peu près. Lorsqu'il a commencé à écouter sa femme, et là, il y avait des larmes, des larmes. Même moi, René puis moi, on se regardait en disant, c'est profond, tu sais, il y a de la dépression, c'est profond. Mais à un moment donné, derrière les larmes, elle a commencé à parler et raconter vraiment son histoire. Avec une éloquence, une précision, tout. Son mari, tranquillement, là, lui aussi, il avait un pivot. Il a tourné. Puis maintenant, on a vu partir une larme. Une autre larme. Et après, on fait souvent, toujours, pas souvent, toujours ça. On les fait prendre les mains dans les mains et on dit au mari, ton épouse vient de se raconter, y a-tu quelque chose qui t'a touché, quelque chose que tu aimerais lui partager? Il est parti à pleurer, c'était tellement beau. Il dit, chérie, j'ai toujours pensé que j'étais meilleur que toi en éducation. J'ai toujours pensé que je comprenais pas pourquoi tu criais après les enfants, t'étais le même. Puis même, j'allais en alliance avec les enfants en disant, voyez votre mère comment elle est? Moi, je suis un bon père, mais chérie, vraiment, je te demande pardon. Je comprends ta colère. Pourquoi tu es comme ça avec les enfants? Et non seulement je comprends et je crois ce que tu as vécu, mais je veux t'aider. Et là, on a vraiment monté un grand escalier roulant. On a fait un bon palier. Et l'histoire ne se termine pas là. Parce qu'il était aux prises. Il luttait depuis qu'il est même marié avec des enfants. Il luttait avec l'homosexualité depuis sa jeunesse. Et il a ouvert son cœur avec des liens qu'il avait eus. Et à un moment donné, en prière, il dit, les chaînes sont tombées. On a eu une démonstration d'un sketch hier. Et on a vu, il dit, les chaînes sont tombées. Seigneur, les chaînes tombent. Enfin, je peux partager ça librement et tu peux me libérer de cela. Et ça, c'est un des beaux témoignages. Ça nous a beaucoup impacté. Mais il y a eu cet effort-là du mari de sortir de lui-même. Alors, quand il me dit, je suis venu pour elle, j'ai eu un bon réflexe. J'ai dit, est-ce que je pourrais te féliciter? Parce qu'après un an qu'elle te sollicite, une, deux, trois, quatre fois, tu décides de venir, tu comprends pas encore, mais ce que tu fais là, tu le fais pour elle. Et à la fin, c'est un couple très généreux avec nous. Ça, c'est l'humour de Dieu. Il dit, c'est la plus belle expérience de ma vie. J'avais essayé tellement d'affaires, j'ai vécu toutes sortes de choses, mais il dit, ce avec quoi je vais partir, je l'oublierai jamais. Puis nous non plus. Parce que vraiment, c'est une délivrance, c'est une bénédiction, puis une reconnexion de couple. Quand on sort de nous-mêmes. Dernièrement, on est allé à Rimouski sur le témoignage d'un couple qui n'était plus ensemble depuis 9 mois. Et ils ont entendu parler du ministère, ils sont partis de Rimouski, ils sont venus nous voir il y a 2 ans, deux ans. Ils sont venus, ils sont revenus ensemble, et dans l'église, à un moment donné, on a vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Alors, l'église de Rimouski nous a appelés, ils ont dit, c'est quoi ça, cœur à cœur? Bien, on a parlé, finalement, on est allé faire des conférences, exactement comme on vit ici. Il y a 6 couples qui ont demandé, ça c'est juste en décembre, c'est tout frais. Et parmi les couples qui ont demandé, il y a un jeune couple qui était là, qui vivait en concubinage, dont la fille avait connu Dieu et dont le jeune homme connaissait fraîchement le Seigneur. Alors, ils étaient quelque part en concubinage, prémarital, en réflexion, tout mêlé, tout confus. Mais les jeunes, René dit souvent ça, c'est des cœurs vrais, 80% du temps, ils disent la vérité. Et lorsqu'on a fini la première conférence, là, je suis parti directement, là, touc! Je suis allé à côté d'eux, j'ai pas niaisé avec le POC. Je le savais, le Seigneur m'a dit, puis je me suis planté là, puis là, j'ai dit, comment ça va? Paf! Ils ont parti à pleurer tous les deux. Elle dit, moi, là, je suis pas bien dans qu'est-ce que je vis. Puis si je suis parti aller rester avec, c'est parce que mes parents se sont séparés. Quand mes parents se sont séparés, moi, je suis parti, puis je suis allé rester avec. Puis aujourd'hui, je suis pas bien, mais mes parents sont revenus ensemble. Puis là, moi, je voyais tout le scénario. Vous devriez faire un cœur à cœur. Et ils sont partis avec le prémarital. Ils sont venus. C'est déjà tout fait, ça. Ils sont venus à Sainte-Julie. On les a installés dans 2 chambres séparées parce que déjà, après cet exposé-là, ils ont décidé de faire chambre à part. Et je vous dis que Dieu, s'il ne travaille pas dans la puissance des cœurs, c'est la vérité qui travaille dans leur cœur parce qu'il y avait eu des semences jeunes. Mais ce que la jeune fille avait comme témoignage, c'est de voir ses parents se disputer, se déchirer, se diviser et finalement se laisser. Mais lorsqu'elle a vu ses parents revenir ensemble, un cœur d'enfant, c'est un cœur d'enfant, hein? Ça l'aime la vie, ça l'aime la vérité. Alors, lorsqu'ils sont revenus, j'ai attendu, c'est moi qui leur ai fait cœur à cœur, j'attendais que ça soit vraiment prêt. Je voulais lui dire, est-ce que tu penses pas que ce serait une bonne idée que tu retournes chez tes parents à ce stade-ci, juste pour te repositionner? C'est elle qui l'a craché le morceau. C'est elle qui me l'a dit. Moi, je ne suis plus bien dans ce que je vis, je retourne chez mes parents. Alors, Dieu remet un autre. Peut-être qu'elle va le marier, le jeune homme. Mais ce que je veux dire, c'est que la vérité repositionne. Et là où j'attirais votre attention, c'est ça a commencé parce qu'un homme est sorti de lui-même. Il a vécu exactement la même expérience que Sylvain. On achève. On va arrêter parce qu'on pourrait parler longtemps, mais je vois que ça commence à bouger. Habituellement, j'ai une sonde de ce côté-là aussi. Alors, je termine, puis je donne un petit mot à René. Nous, on est passionnés parce qu'on aime la guérison. On aime la délivrance. Puis vous voyez le mouvement de l'Esprit de Dieu. On part d'une famille séparée qui revient ensemble, qui impacte leurs enfants. Parce que vous, parents, vous avez un rôle extraordinaire. Quand vous décidez d'arrêter de vous battre, puis de vous unir, puis de vous aimer, là, il y a des yeux partout autour de vous qui vous regardent puis qui ont le goût de faire la même chose. Heureusement que nos enfants nous ont pardonné. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est plus fin. S'il y a un couple qui s'est disputé dans l'Assemblée ici, je ne voudrais pas qu'il y ait un calibrage de balance parce que je vous garantis que je serai dans les premiers avec René. Ben, c'est pas drôle, hein? Mais c'est la vérité quand même. On est 2 têtes extrêmement fortes, mais il a fallu que le Seigneur fasse un grand ménage, hein? Qu'il sorte la coupe, la tranche, le purificateur, appelez ça comme vous voulez. Il faut vraiment que se laisser épurer, émonder, transformer, regarder à qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, puis c'est pas fini, mais ça commence à être bon. Parce que il y a de temps en temps, il sort un fruit, puis c'est délicieux.
Ouais, finalement, j'avais raison.
Finalement, elle avait raison aussi toute. Je suis guéri, je suis transformé. Mais j'aime ce témoignage du couple de Rimouski, parce que les parents, là, quand je l'appelle, je dis comment ça va, ils me disent toujours nos cœurs sont en graisse de bine. Au Québec, on a toutes sortes d'expressions, c'est local. Mais des cœurs dans la graisse de bine, laissez-moi vous dire que le courant passe, hein? C'est comme la myéline dans notre cerveau. Pas de myéline, c'est sec, il n'y a rien qui passe. Mais la graisse de bine, là, dans les cœurs, c'est parce que le couple baigne dans quelque chose. Hein, Joël? Je te souhaite de la graisse de bine avec ta chérie. Je sais pas comment ça va. Si nos couples sont dans la graisse de bine, il y a quelque chose, il y a un courant qui passe. Et ça impacte les enfants qui reviennent et qui reprennent un ordre dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il y a une soif de l'amour de Dieu. Et après que René a porté à Rimouski, là, sur la sexualité, il en demandait. Pourriez-vous demain matin, dimanche matin, reparler de ça? Et des jeunes filles sont venues la voir et ont dit, on n'a jamais entendu ça. Ébranlée. Il y avait une jeune fille d'une trentaine d'années qui revenait vivre tranquillement chez son père parce que ça n'allait pas bien avec son chum. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Toujours en concubinage. Mon père est pasteur, j'aime Jésus, qu'est-ce que je fais? Mais on sait que la vérité va faire son œuvre. Si on la transmet avec amour, pas pour convaincre, mais l'amour fait son travail dans les cœurs. Moi, je vous remercie de votre patience parce que j'étais parti dans un petit élan final, mais je veux tellement pas partir de Trois-Rivières que j'insiste. Parce que c'est une grande bénédiction de pouvoir vous partager. Veux-tu parler de la table?
J'aimerais dire une chose pour terminer, très, très court, simple. On ne veut pas éveiller des choses en vous et vous abandonner. Ce n'est pas notre but. On veut vous tendre la main. Alors, je ne sais pas s'il y a encore le PowerPoint d'hier, juste pour projeter la dernière diapo avec le nom, notre courriel, en fait, du ministère. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas facile d'ouvrir des choses qu'on n'a jamais ouvertes, on le sait. Mais c'est important de les ouvrir quand ça nous détruit puis quand c'est le mensonge. OK? Il y a un mensonge dans la sexualité extrêmement fort, dans les vies cachées. OK? La sexualité, ça se passe pas le dimanche matin de 10 à midi, là. OK? C'est la nuit, c'est le soir. L'ennemi est subtil et il veut détruire nos vies. Moi, j'aimerais ça vous dire avec Gilles que nous, on veut vous tendre la main. OK? On fait des rencontres cœur à cœur, on prend soin des couples, mais notre téléphone est ouvert, notre texto est ouvert et notre courriel est ouvert. Pourquoi? Parce que notre soif à nous, c'est de se battre avec vous. Parce que quand on écrase le mensonge, quand le menteur a plus de prise sur nos vies, c'est incroyable la lumière de Christ qui vient dans nos vies. Et la sexualité amène juste la confusion. On n'a plus de discernement quand on est prisonnier d'un désordre sexuel dans nos vies. Okay? Et je veux l'ouvrir parce que c'est une vérité et c'est une vérité qui détruit. Alors que ce soit parmi vous ou parmi quelqu'un que vous connaissez, ne vous privez pas de nous écrire. On va vous tendre la main. On va se battre avec vous. D'un même cœur, d'un même esprit, d'un même amour, c'est ça. Le Seigneur, il tendait la main, il se réjouissait. Et il pleurait aussi, et il était avec la Samaritaine jusqu'au bout pour lui dire qu'il y a autre chose que passer sa vie avec 5 maris. Et c'est ça qu'on veut faire avec vous. Mmh. Fait que si vous avez soif, vous pouvez prendre notre courriel. Parfois, un courriel, c'est moins impliquant, mais ça nous permet de commencer à ouvrir une vérité qui nous enchaîne.
On est à la table derrière. S'il y a des couples, des célibataires, des jeunes qui se sentent interpellés, à faire cœur à cœur. Je sais que Benoît et Christina en font, mais de la manière qu'on le fait sur 4 ou 5 jours, parfois, s'il y en a qui veulent vivre ce processus-là, parce qu'ayant parlé avec Benoît, il, je ne sais pas s'il en fait encore ou il en a fait ou il va en faire, mais nous, on en fait, puis on est en accord pour que notre porte soit ouverte, notre porte vous soit ouverte. Alors, il y en a qui voulaient venir revoir ce matin, on va être à l'arrière, OK? Moi, je vous dis bien humblement, hier, l'Église nous a fabriqué une boîte de donations libre. Elle va être en arrière sur la table. Si le Seigneur met un dépôt sur votre cœur, c'est un ministère consacré, engagé. Il n'y a pas personne qui fera fortune avec cœur à cœur, mais le soutien des anonymes, des gens, des donateurs, nous permet de travailler. Et inquiétez-vous pas, quand il y a un surplus, ça s'en va direct dans la mission. On travaille à Cuba, on travaille en Haïti, on travaille en Europe. Puis 3-4 fois par année, on se gratte la tête pour dire comment on va y aller ce fois-là. Cassez-vous pas la tête depuis 6 ans. L'expérience du grattage de tête semble faire partie de la mission. Paul le dit dans l'abondance comme dans la disette. On est heureux, on n'est pas malheureux. Mais le grattage de tête, vous êtes une partie de la solution. Je vous remercie beaucoup.